rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce 98e épisode de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et bonjour tout le monde. Ça me fait un immense plaisir d'animer l'émission aujourd'hui, surtout que c'est un sujet pour lequel je connais que dalle. En fait, j'en sais absolument rien de... je ne connais pas du début de la première once. En fait, j'ai une vague idée des tenants de cette culture-là, mais je pense que je l'ai manqué d'après 6-7 mois pour que ça soit véritablement dans mon radar. Avant de rentrer là-dedans, je veux mentionner que Choc Fête, c'est 15 ans. Mardi prochain à 7h au Bar La Grenade, il va y avoir le lancement du nouveau site web. Toute l'équipe de Pop en Stock qui sera. Donc, si ça vous tente de venir nous jaser, ça risque d'être vraiment, vraiment cool de pouvoir vous rencontrer de vive voix. Parce que, et surtout, maintenant qu'on est sur iTunes et qu'on est sur Google Play, on reçoit énormément de commentaires d'auditeurs. Puis ça, ça change la dynamique à l'os. Surtout qu'il y a énormément de nos auditeurs qui ont déjà coté. Ils ont mis des étoiles, ils ont mis des commentaires, tout. Puis on se rend compte que ça sera le fun de vous rencontrer pour qu'on puisse partager sur la culture pop. Mais maintenant qu'on est en onde, bref... fin de, et il serait temps qu'on arrête les tergiversations et qu'on présente nos spécialistes aujourd'hui. Megan et Alexandre, bonjour.
Hello.
Merci énormément d'être venu. Oui, Alexandre Poirier, Megan Bédard, je pense que les auditeurs vous connaissent déjà assez bien. Puisque vous êtes...
T'es sûr?
Non, je leur souhaite, parce que si vous connaissent pas, il y a comme un grand... ils ont manqué des très bonnes émissions. Si vous n'avez pas déjà entendu, c'est qu'il y a une petite lacune dans leur écoute. Je veux vraiment vous remercier d'abord et avant tout d'être là, mais aussi de venir porter votre expertise par rapport à ce phénomène-là que l'on fête le 20e anniversaire cette année.
Cette année, oui.
Parce que je pense pas que c'est vraiment une affaire de moi. Comme je vous dis, une chance que vous êtes là, parce que je pourrais pas en parler pendant une heure tout seul de Pokémon.
Merci de nous avoir invités.
Non, ça me fait super gros plaisir. Puis c'est ça l'affaire, en full disclaimer, en introduction, c'est que je suis totalement conscient de l'importance que ça représente, mais je l'ai manqué de très peu. Fait que je vois, j'ai l'impression que j'ai pu observer les conséquences de la présence de Pokémon dans l'impact que ça a eu dans le climat culturel, sauf que je suis pas littéralement capable de dire que c'est vraiment Pokémon qui a amené ça. Je pense que la prochaine heure qu'on va partager ensemble, vous allez pouvoir mettre plus de chair sur l'os interprétatif que j'ai. On essaye. Mais non, c'est ça, c'est le 20e anniversaire. Excuse-moi, je vais chercher mes feuilles de notes. Yeah. C'est le 20e anniversaire. Ce que je constate, c'est que dans les 20 dernières années, on aurait pu avoir comme une nouvelle à toutes les semaines. Il y a toujours quelque chose à propos de Pokémon qui arrive dans l'actualité. Lundi, en fait, on enregistre ceci, on est le mercredi, mais lundi dernier, le 30 mai, il y a eu une assez grosse manifestation en face de l'ambassade, en face du consulat japonais en Chine, puisque les gens étaient furieux de la nouvelle traduction de Pokémon. Puis je me rends compte que des trucs comme ça, il y a dû en avoir tellement d'histoires entourant Pokémon. Là, on est fondamentalement en colère du fait que Pikachu ne s'appellera plus Baikaichu, mais on va le prononcer maintenant de façon uniforme comme Pikachu.
Ton cantonais, ton mandarin, ça m'impressionne.
Je remercie Chow Yun-Fat pour ça. Mais c'est drôle parce que c'était dans les petites bribes d'affaires que j'avais comme information. Je disais comment, ben, tu sais, on peut parler de ça. Mais en préparation à l'émission, vous me disiez que c'est symptomatique d'un plus grand problème en Chine.
Ben, en fait, c'est quand même c'est une grosse polémique. C'est pas seulement linguistique quand on y pense, a priori, parce qu'en fait, pour mettre dans le contexte, en Chine, il y a, on peut dire principalement, je fais des guillemets pour ceux qui ne voient pas en ce moment, mais je fais des guillemets, il y a deux langues officielles. Il y a le cantonais et le mandarin. Megan, tu peux me dire quel, mais je me souviens plus. Mais à Hong Kong, je crois que c'est
On parle cantonais.
Cantonais.
Majoritairement. Tandis que dans le reste de la Chine, on parle beaucoup le mandarin. Il y a vraiment beaucoup de dialogues en Chine.
C'est ça.
Ouais, de dialectes,
ouais. Il y a du dialogue aussi avec. Autant de population, il doit avoir pas mal de conversations.
Ouais, ouais.
Puis avec la sortie prochaine, avec la sortie prochaine des nouvelles versions, Sun and Moon, le problème, en fait, c'est que ils vont simplifier la langue sur les pochettes, mais également dans les textes en jeu. Donc, pour un chinois plus simplifié, plus traditionnel, ce qui fait que, justement, Hong Kong, la région d'Hong Kong, va perdre son régionalisme, ses régionalismes, ses expressions, tout ça.
Ça fait fi un peu de la diversité linguistique qu'il y a en Chine aussi. Ouais. Là. Ouais. Puis, il y a déjà des problèmes politiques au niveau de... Le cantonais qui est un petit peu en voie d'extinction, là, on perd et ça perd un peu de chemin au dépend du mandarin. Ouais, puis là, de là, les manifestations, la réaction par rapport à la nouvelle traduction.
C'est super paradoxal par rapport justement à la philosophie de base de Pokémon qui est justement de venir rejoindre les gens alors qu'avec cette décision plutôt douteuse, bien, on vient isoler un groupe qui était déjà d'une certaine façon isolé, ne serait-ce que par sa langue différente par rapport à la majorité de la gargantuesque population chinoise.
Ouais. Mais c'est parce que c'est vrai.
Parce que ça a un impact culturel assez grand, là, qu'on voit que ça fait justement des manifestations politiques comme ça. Mais on peut...
Ben, c'est parce qu'en fait, ça se généralise. Puis ça, c'est encore un truc que vous m'avez appris tantôt. Puis merci beaucoup parce que j'ai de l'air moins... pendant l'émission. Mais il y a une valeur centrale, il y a une valeur fondamentale à la création de Pokémon.
Oui.
Puis c'est celle-là que vous êtes qui est en train d'être un peu mis de côté.
Mis de côté.
C'est la communication.
La question de la socialisation, de l'interaction entre les joueurs. Ben ça, on peut revenir au début de Pokémon. Donc, le créateur Satoshi Tajiri, pardonnez ma prononciation du japonais,
parfait.
On va dire. Je vais le prononcer comme ça. Donc, il avait comme passion, étant jeune, de collectionner les insectes. Et dans un Japon post-fordiste, où l'exigence de performance effrite les interactions sociales, ça fait que les Japonais sont de plus en plus isolés, ils interagissent moins entre eux, ils sont de plus en plus solitaires. Et aussi, la culture du gaming dans les années 80 au Japon était très, très solitaire. Et Satoshi Tajiri voit ça et décide de créer un jeu qui favoriserait les interactions sociales et décide de relier sa passion pour la nature, pour la collection d'insectes et son amour des animaux et justement toute cette question de sociabilité dans le jeu qui est Pokémon et avec justement des mécaniques de jeu qui poussent l'interaction entre les joueurs. Donc, qu'on parle des combats afin de faire évoluer les Pokémon, donc les rendre plus puissants. Certains Pokémon peuvent justement évoluer seulement en étant échangés avec nos amis. À l'époque, c'était le Game Boy, donc il était relié par un câble.
Le Game Link.
Le Game Link.
Trading Mark.
Ouais.
Et c'est justement Satoshi, quand il a vu ça, il imaginait justement des petits insectes qui se promenaient sur le câble, qui passaient d'un Game Boy à l'autre, qu'on pouvait justement interagir avec nos Pocket Monsters, donc d'où le nom. Ouais. Là. Donc,
les monstres de poche.
Oui, c'est ça. Parce que Pokémon, c'est un diminutif pour Poketo Monsuta. Je veux dire Pocket Monster.
OK, OK.
Pokémon.
Mais c'est très intéressant que ça soit comme codé dans le jeu que tu es ton progrès est limité par si tu interagis pas, ben ton Pokémon est moins fort, puis si tu
si tu te bats pas, si tu ne fais qu'éviter tous les combats jusqu'à la fin, c'est sûr que tes Pokémon n'évolueront pas, gagneront pas des attaques supplémentaires, même à l'intérieur du jeu, les interactions sont poussées parce que depuis la version Gold et Silver, sortie au début des années 2000, j'avais 10 ans, 11, 12, ouais, quelque chose comme ça, en tout cas, dans ce coin-là, ils ont amené la copulation inter-espèce, on va appeler ça comme ça, donc qui permettait justement de prendre deux Pokémon et de les faire accoupler, ce qui faisait un œuf. Donc ça nous permettait d'avoir des fois d'avoir des Pokémon qui étaient plus difficiles d'accès ou bon, peu importe.
Faire des copies des Pokémon qu'on possédait déjà pour les échanger.
Pour les échanger par la suite. Ah. Ce qui a amené plusieurs milliers d'enfants de 12 ans à utiliser un Pokémon rose comme, comme mère porteuse.
Ah, parce qu'il y a un Pokémon rose qui s'appelle Ditto.
OK,
Ditto.
Merci.
Donc, oui, c'est ça. Quand on le met dans l'enclos avec les autres, ben, Ditto a la particularité de se transformer en n'importe quel Pokémon qu'il voit.
Ditto, d'où le mot...
Et donc, c'est ça. Quand on le mettait dans l'enclos avec n'importe quel Pokémon, il pouvait faire un bébé. Donc, le Ditto, c'était le sex slave de Pokémon.
Waouh, ouais, c'est vrai que
c'est probablement ma première et dernière expérience avec la prostitution. On va appeler ça comme ça. Ouais, c'était plutôt particulier. Mais bon, c'est ça, vraiment, interaction au niveau des Pokémon. Tu sais, des fois, moi, je me souvenais, ce que je faisais, en fait, c'est que j'avais un Ditto, j'avais un Pokémon, j'avais un ami qui voulait un des Pokémon qui était exclusif à ma version.
Ouais.
Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais mon Ditto, je prenais le Pokémon que mon ami voulait. Schlick, schlick, bang, bang. Je faisais un œuf. Puis ensuite de ça, je donnais l'œuf. Puis quand l'œuf finissait par éclore, ben, il y avait le Pokémon que cette personne-là voulait. C'est pas une chimère, ne t'inquiète pas.
Non, c'était pas
c'est
ça.
Pas, okay. C'est pas une combinaison. Ça fait vraiment des Pokémon prédéterminés. T'as pas l'enfant des deux Pokémon.
Tu te retrouverais pas avec une abomination.
Non, non, c'est pas
génétique.
Une chimère qui dit tue-moi, pitié, puis ça fait bugger
ton jeu. Comme le site internet qui génère justement des chimères de Pokémon. T'en mets deux, puis ça les colle ensemble. C'est...
On retrouvera ça plus tard. Pour les auditeurs qui sont intéressés, on va trouver l'adresse.
Pour revenir à la socialisation, il y a le fait que les consoles, quand on rajoute dans le jeu, parce que ça s'étend aussi après, mais les consoles se sont développées de façon à favoriser justement les échanges.
Ouais.
Et après, avec la pression d'Internet, ben là, les consoles ont pu se connecter en ligne, puis là, ça, le réseau il est ouvert, il n'y a plus de limite. Mais justement, avec la Nintendo DS, après, on pouvait déjà, sans l'aide du câble...
DSi. Ouais, c'est ça.
I. DSi.
C'est à partir du i qu'on a pu...
Qui était Wi-Fi, avec c'est ça?
Ouais.
Il y avait Wi-Fi, mais il y avait aussi... wireless, quand t'étais côte à côte, tu pouvais interagir.
Oui. Non, je pense que la DS tout court, elle avait ça, si je me rappelle bien, que tu pouvais partner up avec...
Je pense que oui.
Puis tu fais détecter dans ton environnement. Même
là,
pas,
aujourd'hui, tu parles tes amis. Puis si t'es dans le métro, par exemple, puis tu joues à Pokémon, puis il y a des gens qui apparaissent autour de toi, ça veut dire qu'ils ont leur DS dans leur sac à dos ouverte, puis tu peux interagir avec eux autres, même si tu les vois pas dans le métro.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
J'en ai déjà vu qui apparaissait, mais je l'aurais jamais parlé.
Moi, je le fais pas. C'est quand même bizarre parce que bon, ça pousse le côté social Pokémon, mais on est tellement pas social.
Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais.
On a une dizaine d'amis qui jouent à Pokémon à peu près. Je dois avoir à peu près ça. Fait que bon, c'est.
Mais est-ce que vous êtes déjà fait un ami via ça?
Non.
OK, c'est pas quelque chose que vous
avez
rencontré.
Mais la possibilité est là.
Ben oui, c'est ça. Oui. Moi, je suis le genre de têteux qui le ferait. Je me
ben,
cherche
y en a qui
le
font,
le
là. On a un ami qui est vraiment motivé à faire ça. Puis, en fait, ça vaut la peine parce que, c'est particulièrement dans la dernière version, en fait, dans le XY, ben l'avant-dernière, je devrais dire.
Ouais.
Quand tu avais des amis, à un moment donné, à la fin du jeu, tu allais dans un safari. Donc, quand tu avais des amis, tu allais dans leur section du parc safari, on va appeler ça comme ça, et il y avait un type attribué à ce parc safari.
Donc,
un type. Donc,
les Pokémon sont divisés en types, type, dans eau,
électricité,
feu,
OK, c'est ça, merci.
Donc, je sais pas, mettons, Jean-Guy, je suis ami avec, lui, le type de son parc safari, c'est steel, métal.
Bon, ouais.
J'arrive dans le parc safari et je peux attraper des Pokémon métal.
Que toi, tu ne pourrais pas avoir parce que tu n'as pas ce type-là, par
exemple.
C'est
ça, exactement. Ouais.
Ça change à chaque ami. Plus tu as d'amis, plus tu as de choix.
Ben oui.
Donc, c'est ça. C'est encore dans la mécanique de jeu. C'est encourager de socialiser avec les autres.
J'ai vraiment le goût, là. Puis c'est 15 minutes dans l'émission. J'ai déjà le goût d'aller m'acheter une DS comme là.
Il n'est pas trop tard, Jim.
Non, mais je ne vais pas vous abandonner pour la suite, là. Mais je ne peux pas promettre pour à partir de 6 heures. Non?
Hein, c'est bon.
C'est OK, big game, ça. Mais c'est très... OK, mais rapidement, là, OK, parce que vous avez nommé plusieurs titres, ou je sais pas, Megan, t'étais-tu rendu à... Ça se passait bien, OK.
Ouais,
On 96-97, c'est la sortie de Red et Blue.
Red, en fait, Red and Green, au Japon.
Ouais.
Pour les abonnés d'un certain magazine japonais, il y a une version Blue qui est sortie également au Japon.
Qui est une exclusivité
qui était une exclusivité au Japon en 96. En 99, elle est sortie pour le grand public au Japon. Ce qu'ils ont décidé de faire, par contre, c'est que quand ils ont fait la localisation pour l'Amérique, donc du red et green. Ils ont transformé ça en red et blue, parce qu'en fait, la version blue américaine, c'est une combinaison des de la version buggée green avec les bons côtés de la version blue.
Okay.
Donc, ça a été un mélange. Contrairement à ce que je pensais, parce que moi, je pensais qu'il avait changé le nom de green, parce que, bon, green, connotation...
Willie Nelson.
Ouais, relatif à la consommation de la marijuana. Ça aurait pu être possible avec le Nintendo Code, mais bon, on pourrait faire un épisode de Pop en Stock au complet avec le Nintendo Code. Ça sera pour une autre chose,
ouais,
une autre
parce
fois.
Parce que c'est ouais, un autre truc.
C'est un gros truc, mais bon, côté polémique, ça se donne.
OK, on va starter sans fichier.
Ouais,
parce
on starter sans fichier. Nintendo Code.
OK, donc, blue... Red et blue.
Ouais.
Ensuite est arrivé
Yellow.
Yellow.
Yellow, qui était une version qui était comme le troisième opus de la première génération.
OK.
Qui était comme une version améliorée de Red et Blue.
OK.
Dans lequel tu pouvais avoir.
Il y avait Pikachu qui te suivait
ouais,
en arrière.
Pikachu qui te suivait. Ça, c'était nice, là.
Moi, j'avais la Game Boy Color édition spéciale Pokémon Yellow avec un Pikachu puis une Pokéball dessus. Il était jaune.
Oh.
J'avais mon Pokémon Yellow.
Puis là, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui jouaient à Red, il y a des gens qui jouaient à Blue, puis il y a des gens qui jouaient à Yellow.
Yellow.
Et ces jeux-là avaient des Pokémon exclusif dans chacun
oui.
que tu pouvais partager.
Oui.
Mais il n'y a personne qui jouait aux trois, j'imagine. Est-ce qu'il y avait des camps? Est-ce qu'il y avait des puristes du bleu, des puristes du rouge?
Oh ouais, moi j'ai eu des débats de longue haleine. On s'entend là, jusqu'à un certain point. Là, quand tu as 8 ans, on s'entend que les débats, c'est comme bleu, c'est bien plus nice comme couleur. Bon.
Oui, mais c'est un départ.
C'est quand même un départ. Mais oui, moi j'avais yellow. Moi j'étais comme moi j'ai Pikachu. Ouais, mais tu sais, moi j'ai red puis blue. Puis dans red puis blue, tu pouvais faire un cheat, un truc en fait, que tu ramassais des rare candy, qui
okay.
était un item spécial qui te permettait de monter de niveau automatiquement des Pokémon, sans devoir te battre, ramasser de l'expérience. Vraiment, tu donnes le bonbon, il monte de niveau. Puis il y avait un truc en fait qui permettait de grinder, donc de prendre plein de rare candy, puis là de monter un bonhomme au niveau 99, qui était le maximum en une heure.
Ben c'est ça.
Maximum, au lieu de, je sais pas, une vingtaine d'heures.
Bon, une quarantaine d'heures, 80.
Mais ça faisait planter les cassettes.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, fait que c'était comme... C'était un cadeau empoisonné
ouais,
que...
Ouais, c'est ça. Ben, si t'abusais, en fait, de ce truc-là, qui était vraiment un truc...
C'est un problème dans le codage.
C'est un bug.
Ouais,
c'est vraiment un bug. Ouais. Tu pouvais faire crasher ta cassette. Ouais.
Puis là, le jeu était brisé ou la partie était corrompue?
Ta partie était corrompue.
OK, c'était pas comme le jeu crève, puis là, t'es comme, tu rentres à la maison, puis tu brailles parce que t'as 8 ans, puis t'as mis ton
arc. Mais ta partie est corrompue. Mais niveau exploitation de bug, ça arrête pas à Red versus Blue, Yellow.
Ah, ouais.
Moi, je me souvenais, en fait, que dans Gold et Silver...
Qui
est la deuxième génération.
C'est bon, c'est ça, je voulais...
Qui a eu Crystal aussi,
okay.
par la suite, qui est comme le yellow de la... Bon, c'est un peu...
C'est une dynamique qui est revenue.
En fait, c'est une dynamique qui est revenue, sauf dans les derniers temps, mais on va y arriver. Mais la dynamique, en fait, c'est qu'il y a deux opus côte à côte qui sortent en même temps et un troisième opus qui est comme la version améliorée des deux premiers. Donc, un des bugs, en fait, que j'ai exploité à de nombreuses reprises, c'était d'échanger un Pokémon... Et pendant le transfert, tu fermais ta Game Boy. Donc, toi, tu gardais ton Pokémon et l'autre avait le sien.
C'est ça, c'est le transfert informatique faisait que ça tranchait puis que là, il y avait deux moutures. C'était faire des moutures. C'était faire de la botanique avec des Pokémon.
La botanique,
Mais c'est ça qui me fascine jusqu'à présent, c'est que, on a parlé de débat, on a parlé d'interaction, tout, c'est des... Ben, c'est des belles valeurs, essentiellement. C'est des
quand
trucs
même.
Que oui, c'est peut-être pas les plus hauts débats, mais c'est quand même quelque chose d'avoir...
Ouais.
C'est aussi un jeu qui est très, très bien vu chez les parents. Les enfants qui jouent à ça, c'est très bien vu pour les parents, justement, parce que ça brise l'isolement qu'on associe d'habitude aux jeux vidéo. Donc, c'est ça, c'est toute la socialisation. Puis ça se poursuit ensuite dans les jeux de cartes.
Ah.
Donc, les trading cards, puis les cartes à jouer.
Ben oui, que ça, t'as essentiellement pas
c'est
le choix.
Puis, il ressort de ça que c'est une méthode de trading japonaise qu'on appelle le media mix, qui s'apparente pas mal à la convergence culturelle dont Jenkins parle. Mais le media mix cible non pas les technologies, mais plus particulièrement les technologies portatives. Donc, les consoles portables, les jeux de cartes, Et ça fait qu'on entretient une relation très, très intime avec nos objets. Mm-hmm. Donc, c'est ça, on les a toujours sur nous, ils font partie de notre quotidien. À un moment donné, dans ton break de job, tu peux aller jouer 15 minutes à Pokémon, leur fermer. Ils sont tout le temps avec nous, ça. C'est littéralement des Pocket Monsters. On les a dans nos poches.
C'est ça. C'est l'histoire, tu sais, comme la façon de transporter l'histoire se reflète. C'est là où c'est super intéressant. Puis, comme tu le dis, il y a une dynamique transmédia parce que t'as le jeu de cartes, t'as le jeu de console.
Ça s'étend aux animés, aux mangas et aux films. Et après, on a toute la série de, on pourrait appeler ça des produits dérivés, mais ça fait partie aussi du marketing, du media mix. C'est qu'on tartine à peu près partout une image de marque, en l'occurrence un personnage.
Ouais.
Et pour Pokémon, ça a été pas mal Pikachu au Japon.
Ouais. Oh oui.
Donc, on met la face de Pikachu partout. Il y a une ligne d'aviation, donc qui ont fait deux avions de Pikachu.
Il n'en reste plus qu'un, d'ailleurs.
Ouais. Non. Les agents de base ont des costumes.
C'est des furries, non?
Pas des furries, mais ils ont des chandails de Pikachu, okay. Des pantalons
Sweet
de Pikachu.
Lord, non, pas des furries.
Ben non, mais ils pourraient être en costume complet. C'était Pikachu ou c'est tout des Pokémon différents?
C'est Pikachu.
OK, c'est bon, juste au cas.
Mais l'avion, il y avait énormément de Pokémon de la première génération.
OK, c'était pas comme une grosse saucisse jaune avec deux points rouges, weird.
Quoique, ça aurait été probablement plus beau. Si jamais ça vous intéresse, allez voir sur Internet. C'est quand même immonde. Là. C'est comme un patchwork de fluo puis de rose. Mais d'ailleurs, en fait, j'ai lu ça récemment. Il reste d'ailleurs juste une seule avion de ça. C'est pas que la deuxième a atterri. Okay. C'est écrasé, mais c'est qu'en fait, l'avion vole plus. Ils veulent plus l'entretenir. Bon...
C'est passé, là.
C'est passé.
T'inquiète pas vraiment, je pense pas.
Je pense que l'âge d'or de Pokémon, ça a été pas mal au début. C'est sûr que c'est encore extrêmement...
Il y a toujours un regain à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui ressort.
Ah ouais.
Donc c'est ça.
Ouais.
Mais aussi, ils ont acquis un peu dans l'imaginaire, même aux États-Unis, Pikachu a acquis une place inestimable, notamment parce qu'il y a deux ballons de lui à la fameuse parade du Macy's Day's Parade.
Ah ouais, deux! Aïe aïe!
Oui, il y a deux ballons de Pikachu.
Ah! Aïe aïe, c'est un de plus que Spider-Man, c'est intense. J'ai une question relative à Pikachu. Est-ce que ça a été... c'est une question néophyte. Initialement, il y en avait 100? Il y en avait 99?
151.
La première mouture, c'était 151. Ouais. OK. Mais là, c'est plus le cas, là.
Là, on est rendu à 720?
Plus, parce que Sun and Moon, il va avoir une nouvelle génération.
OK, mais là, présentement, là, actuellement, 700, Sun and Moon n'est pas sorti.
Ouais, à peu près environ.
OK. Ouais. Et est-ce que Pikachu a toujours été central au récit ou ça a été quelque chose d'usager? Usagers ont décidé de prendre... Tu sais, le Pikachu I Choose You, c'est comme le public qui a décidé de faire de lui la mascotte?
Ben, je pense que c'est Nintendo qui a...
Ouais, c'est Nintendo, c'est vraiment la campagne de marketing qui a décidé de choisir Pikachu comme son image de marque.
Ouais.
Et ça fait aussi partie d'une... C'est ça que je dis, comme je disais, c'est une stratégie du media mix.
Ouais, c'est ça.
D'utiliser ce qu'on appelle un character goods. Donc, on fait du marketing autour d'un personnage et on tartine le personnage partout.
Et lui, il a une relation métonymique avec l'objet général.
Oui, c'est ça. Pikachu, c'est Pokémon.
Ouais, c'est ça.
Et il y a aussi le fait que c'est Anne Allison qui écrit un article sur le sujet qui parle justement du kawaii, du cuteness, comme l'image marketing propre au Japon, qui fait que Pikachu, en tant que personnage kawaii, cute, donc il inspire, comment on appelle ça, je dirais... quelque chose de rassurant. Donc,
la domesticité.
Il y a quelque chose d'une rondeur. Il est vraiment cute. On l'aime, mais il n'est pas juste cute. Il n'est pas juste sweet. Il est aussi très, très puissant, Pikachu, parce qu'il fait mal à peu près tout le monde dans l'anime.
Il est moins rond qu'avant, par contre.
Ouais, avant, il était vraiment, vraiment rond. Puis avec les années, il s'amincit.
Ouais, c'est particulier un peu.
Ouais.
C'était vraiment littéral. En fait, c'était une boule jaune
avec
deux
pattes.
Oreilles. Puis une queue. Là, il y a vraiment tu sais, il n'y a pas des formes...
Il y a une tête, il y a un corps.
Il est plus défini en tant qu'anthropomorphique, là.
C'est ça, ouais.
Mais c'est drôle parce que je pourrais pas le faire, là, en onde. Il y a des évolutions de Pikachu. Le deuxième, c'est Raichu.
Puis avant Pikachu, parce que à partir de la deuxième génération, il a introduit les bébés Pokémon.
Ben oui.
Qui sont juste avant. Donc, Pichu.
Qui est bébé Pikachu.
Puis avant Pichu, c'est Pi. Non, c'est pas vrai. Mais.
qui est juste une flaque jaune.
Ouais, c'est ça.
Non.
droit à la vie, donc okay. C'est pas dans ce forêt.
Mais on n'a pas autant d'expos. Je pourrais pas, tu sais, comme dans Usual Suspects, là, je pourrais pas pointer Raichu. J'ai aucune idée de quoi il y a là.
Non, ben il ressemble.
Il ressemble.
Il est juste plus brun.
Mais il est orange. Ouais. Ocre. Puis il est un peu plus gros.
Ouais. OK, puis il y en a-tu un autre après? Il y a-tu comme une...
Pas encore.
Ah, oh, wow, c'est intéressant.
Non, mais moi, je veux dire pas encore.
Mais oui, mais c'est ça. Il y a la logique aussi d'évolution, justement d'évolution, parce que c'est pas mal le thème central de Pokémon, qu'on fait juste accumuler encore et encore des Pokémon. Donc, au début, on avait les 151 premiers. On a fait des évolutions à quelques-uns. On en a rajouté des nouveaux. Là, on a...
C'est 151 uniques. C'est pas qu'il y en avait 50 qui avaient trois évolutions.
Oui.
C'est ben ça, c'est bon.
C'est ça.
Mais il y avait quand même une dynamique d'évolution.
Oui, absolument. Je dirais que mais il y avait 353 formes.
Non, 151 Pokémon.
Ouais. Dans les 151 Pokémon, ça compte comme l'évolution, en fait.
OK, donc il y avait 50 modèles.
Dès que t'évolues, t'es un nouveau Pokémon.
C'est bon.
Donc, par exemple, le numéro 1, c'était Bulbasaur. Le numéro 2, c'était Ivysaur. Puis le numéro 3, c'était Venusaur.
Merci mais d'être capable de faire ça.
C'est sans,
t'as pas une note, t'as juste comme ding. Est-ce qu'il y a y a-tu des compétitions de ça?
Oui. Oh oui.
Yes. Yes.
Énormément. De nommer des Pokémon?
Ouais.
Ben, peut-être.
Ben, mais... moi, quand j'étais petite, j'ai nommé les 151 premiers sans regarder. Là.
So much nerdness.
C'est parfait. Non, mais c'est ça qui est fun. C'est que c'est...
Non, oui, ça... Il y avait un travail de fan, même pour les enfants, qui est assez, je dirais... exhaustif autour de Pokémon. Non seulement on apprend tous les Pokémon par cœur, on apprend toutes leurs attaques par cœur, les effets de ces attaques-là, puis il y a toute une logique d'interactivité entre les Pokémon. Fait qu'il y a les Pokémon de feu qui sont faibles contre les Pokémon d'eau, mais qui sont forts contre les Pokémon d'herbe. Puis après,
il y a des Pokémon d'herbe, hein? Ouais.
Ouais.
Ah.
Bulbasaur est un Pokémon
d'herbe. Ah, OK, parce que moi, je peux en nommer trois.
Il y a combien de types? 12?
Ok. Ah, parce qu'il y a Fairy qui s'est rajouté.
Ok.
Fairy, Dark Steel.
Tabarouette. Aïe, aïe.
Non, je commencerai pas à nommer, mais en tout cas, il y en a pas mal.
Ah.
Puis ils en ont rajouté, en fait, dans la dernière génération.
C'est ça. La troisième, c'est. Ok, là, on a parti de Blue Red avec Yellow. Ouais. Après ça, on avait Silver Gold avec Platinum, non?
Non, Platinum, c'est pas tout ça. C'est Gold, Silver, Crystal.
Crystal.
Après ça, ça a été pas mal le No Man's Land où j'ai arrêté de jouer pendant un bout. Juste parce que c'est à peu près à l'époque où on était en trop secondaire.
Maturité
tu jouais
sexuelle,
à Pokémon, puis genre Arc, tu jouais à Pokémon.
Ouais. C'est ça, il y a un No Man's Land du secondaire où que tu joues pas vraiment à Pokémon. Mais je dirais de secondaire 1 à secondaire 3. Moi, ça, c'était mon, moi, c'était mon No Man's Land.
Ah, mis de côté, ton comme.
Mais à peu près de secondaire 4, il y en a un nouveau qui est sorti. Moi... C'était. Là, c'était. Moi, j'ai acheté Platinum, mais c'était.
C'était Diamond, Pearl, Platinum.
Ah,
OK.
Mais moi, personnellement, ça a été. À partir. J'ai arrêté au secondaire du moment où ça me dérangeait, tu sais. Hein, puis les filles, puis tout.
C'était,
là,
puis c'était le regard externe qui dérangeait.
Puis,
c'était
pas.
Ouais,
c'était pas mal ça.
Fin cégep d'université de I Don't Give a Fuck. Fait que je vais jouer à Pokémon, puis c'est nice, anyway. Ouais. C'est vraiment des jeux très bien faits, là. C'est pas des jeux d'enfants, c'est des bons
aussi...
RPG. Là.
C'est ça, en étant un étudiant de l'art vidéoludique, tu le vois, là, que c'était bien foutu, ces affaires-là, là. C'était pas un affaire
mais
de
mais il y a quelque chose de particulier avec Pokémon, c'est que malgré le fait qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont commercialisés pour les enfants, le Pokémon, c'est un des seuls qui était commercialisé pour les enfants. Ensuite, grâce justement au kawaii, au cuteness... on a pu, au début c'était juste pour les garçons, en plus on a pu l'étendre aux filles. Mm-hmm. Après les mères de famille au Japon ont commencé à jouer à Pokémon, ils se sont dit on va commercialiser ça pour tout le monde, et c'est un des seuls jeux que tu peux jouer à partir de 4 ans, donc sans même savoir lire,
Je me figure pas du tout comment est-ce que tu peux faire ça.
Mais moi je jouais quand j'avais 6-7 ans, je connaissais pas l'anglais, mon jeu était en anglais puis je jouais quand même.
Mais tu savais par exemple les ordres, le premier c'est attaque, le deuxième c'est défendre, le troisième c'est faire une habilité, puis t'étais capable de déduire essentiellement comment...
C'est ça, t'as pas besoin vraiment de savoir c'est le texte.
Ben oui.
Ah ouais, je vais en faire ça là. OK, fait que là on est à la troisième mouture que celle-là, cette génération-là, vous a peut-être moins affecté.
Moi ça m'a moins marqué non plus.
C'est pas vrai, Diamond Pearl j'ai joué.
Mais moi, j'ai
Diamond Pearl Platinum, c'est vraiment... Fait que ça, j'ai recommencé.
Mais c'est quand ils ont changé de console, je pense. Ouais.
Ah! Toujours sur le portatif? Parce que ça peut pas être le genre de truc que tu...
Première génération, Game Boy Color. Deuxième génération, Game Boy Advance.
Le Game Boy Color aussi.
Ouais, c'est ça. Première, deuxième, Game Boy Color.
OK.
Troisième, Game Boy Advance.
Ouais.
J'en avais un, mais j'ai décidé de pas jouer à ça. Après ça, ça a été DS.
Le DS, ouais.
Puis ça, c'était...
Diamond Pearl Platinum. Pour le troisième opus qui a toujours pas rapport. Après ça, ça a été...
Le troisième? Quatrième.
Quatrième génération. Là, on est rendu à la quatrième.
Ouais, là, on est rendu à la quatrième.
C'est
Black and White.
Non, ça, c'est la cinquième.
Ah, oh, man, c'est quoi? Ah oh, oui, attends, je sais plus.
Wow! Ouais,
c'est ça, Black and White 2. Il y a eu oui. XY.
Ah, Ruby Saphir, c'est ça, j'ai Ruby oublié. Saphir. Ah. Ruby Saphir Emerald. OK, on recommence.
Non, 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 c'est très bien. C'est très. C'est... Ouais, ouais, OK. Ils ont été dans
c'est
ce pattern-là.
Parce que je me mélange, parce que là, ils ont fait. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont commencé à faire ça. Ils ont embarqué dans le même bateau que la majorité de. De, en fait, n'importe quelle n'importe quelle production médiatique culturelle, c'est-à-dire faire des remakes.
Ah oh, ouais.
Ouais.
Le dernier jeu qui est sorti, c'est un remake justement de.
Ouais.
Mais quand vous voulez dire remake, parce que ça veut dire en jeu vidéo, ça veut dire deux affaires totalement différentes. Ça
ben,
peut vouloir dire deux affaires.
C'est pas
une remasterisation.
Ok, exactement.
C'est un remake,
c'est-à-dire ben. Nouvel engin graphique, on peut dire ça, nouveau graphisme. Ouais. Ben au niveau du sonore aussi, ben là ils ont racheté la connectivité ou toutes les mécaniques de connexion qu'il y avait pour la mouture, ben pour la génération actuelle.
Ouais.
Fait que je te donne un exemple, Fire Red.
Ouais.
Puis en fait Fire Red et Green Leaf qui était un remake pour Game Boy Advance de Red and Blue.
Red and Blue, ouais, c'est ça.
Ils ont fait Heart Gold, Soul Silver,
okay.
qui était un remake de genre ben, Gold et Silver
Gold
pour
Silver,
la DS. Puis là, ils viennent de sortir Omega Ruby puis Alpha Saphir, qui est un remake de Ruby Saphir.
Okay. Pour la 3DS.
Ah. Fait que c'est vraiment... Il y a un écart de 5 ans entre les remakes, à peu près, ouais. entre la version originale puis le remake.
Il y a aussi le fait que maintenant, sur la DS, tous les jeux ont un centre dans le jeu où que tu peux aller échanger en ligne. Donc, si tu es connecté à l'Internet, tu peux échanger, te battre en ligne contre d'autres joueurs que tu ne vois pas, là. Puis il n'y avait pas ça dans les anciens jeux.
Non.
Donc, on augmente encore plus l'interaction avec l'Internet, justement, l'accès.
C'est ça. Parce qu'initialement, Pokémon avait une dynamique qui n'existait pas. Là, cette dynamique. Ben, tu sais, je veux dire, elle existait, elle était possible potentiellement, mais elle n'était pas exploitée. Tout ce que vous avez
ben,
parlé avec
exploité dans la mesure de la technologie.
C'est ça. Avait. Mais maintenant que c'est un truc très usuel de monter des communautés de rencontres, de faire de ces lieux-là. Pokémon a besoin de l'intégrer malgré qu'il était là avant, en quelque sorte.
C'est
là.
Ça.
C'est juste de s'étendre encore plus
grâce
aux nouvelles technologies. La compagnie le fait en créant des sites web puis des nouvelles plateformes en ligne qui ont une interactivité avec le jeu. Moi, je me rappelle, j'ai joué vraiment beaucoup avec le Dreamland, qui était une plateforme en ligne où tu peux aller attraper des Pokémon qui n'étaient pas accessibles dans ton jeu. Donc, t'endormais un Pokémon, puis tu pouvais aller là-dessus. Il fallait que, mettons, tu te connectes avec ta 3DS, ton téléphone, ton Pokémon s'endort, puis après, tu t'en vas sur ton ordinateur dans le Dreamland, ça se connecte ensemble, puis là, tu pouvais te promener là-dedans.
Ah, oh, ouais.
Ah, je suis pas au courant.
C'est fou, ça, mais faire multiplateforme de cette manière-là.
Oui.
Puis ça, c'est quand?
Alors ça doit faire 6-7 ans.
Quand même. Quelle génération?
Ça, c'était avec Black and White.
Okay. Black
and
White. J'ai manqué, elle.
Ben ça, c'est très intéressant, parce que c'est comme une des seules histoires que j'avais par rapport à Pokémon dans mes recherches.
Pokémon Black?
non, pas Pokémon Black. White and Black... Le créateur, en fait, le concepteur de ce jeu-là, il y a un White and Black puis un Black and White?
C'est Black and White.
C'est Black and White.
Mais c'est la même chose. Mais tu peux dire White and Black.
Mais personne ne va savoir de quoi je parle.
Non,
mais c'est deux jeux différents. Il y a Pokémon Black et Pokémon White.
Ah, OK. Mais ils se passent les deux dans le même monde.
Oui, c'est ça. C'est que c'est le même principe encore. Deux versions, connectivité. Il y a des Pokémon exclusifs à une version.
Mais il n'y a pas Gray.
Non?
Non, mais il y a eu Black 2 et White 2.
Ah, OK, c'est ça.
D'ailleurs, césure dans la tradition à partir de cette génération-là. Au lieu de faire Black-White, troisième opus, Gray,
probablement.
Ben, ils ont fait Black and White et Black and White 2, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, et c'était vraiment des suites.
Oui, c'était des suites
de l'histoire des deux opus d'avant.
Mais là, c'est un truc que moi, je ferais comme une espèce d'adéquation peut-être assez crue, là, mais que c'est la mercantilisation, c'est-à-dire, genre, si tu veux...
Ah oui, mais ça c'est indéniable. C'est sûr que Pokémon...
Mais elle n'a pas l'air super apparente jusqu'à présent.
Mais Pokémon, c'est sûr que ça conditionne une socialisation, il y a un sentiment de communauté, mais tout ça, c'est enrobé justement dans une société d'hyper-consumérisme.
Ouais.
Mais il y a quelque chose là-dedans qu'on dirait que ça ne dérange plus vraiment. Parce
mais
que...
je vois moins qu'est-ce qu'ils appellent la heavy hand of the free market. Je vois moins avant Black and White, parce que là, en mettant un 2, t'es pas mal obligé d'avoir joué au premier... Là,
mais c'est ça.
Pas vraiment non plus.
Ah non, OK.
Non.
Tous les opus, tu peux les consommer sans avoir Oui, ouais. À n'importe quel autre.
C'est ça, mais comme vraiment, tu sais, si vous dites que c'est une suite directe, c'est que là, on est vraiment en train de dire, ben, tu sais, si tu veux voir le 2, écoute là, puis nanana, puis.
Mais pas à ce point-là. Je dis, c'était une suite au niveau du récit, mais je pense qu'il pouvait. Le jeu se faisait un plaisir de te fill in là, pendant okay. l'histoire de ce qui s'était passé, puis tout ça. Fait il n'y a pas de problème, là. C'est vraiment toujours dans essayer de s'adapter aux joueurs. C'est vraiment. Ça a une approche vraiment casual, en fait.
Okay. Mais, même pas, là. Ouais. Je vais sauter mon information parce qu'on on est sur un filon qui est vraiment intéressant, à mon avis, ici. Qu'en est de l'histoire? Quelle est l'histoire de Pokémon?
Wow!
À ce point-là, parce que là, vous dites, c'est casual, on est capable de pick up and play à peu près à n'importe quel moment. On pourrait...
Mais l'histoire est à peu près toujours la même. Ça, c'est sûr.
Mais il y a un récit...
Enfant, orphelin...
Pokémon s'inscrit pas mal dans la tradition des jeux qui sont à peu près tout le temps la même chose, mais toujours différents.
OK.
C'est sûr, moi, j'ai acheté quasiment tous les jeux, puis... C'est pas mal ça, mais...
Le trope du héros silencieux dans les RPG.
Ouais.
Origine obscure.
Ouais.
Destinée à de grandes choses.
Mais c'est toujours à peu près la même histoire. Donc, c'est un jeune, donc jeune garçon, jeune fille, dépendamment de qu'est-ce que tu choisis.
C'est pas toujours H.
Non, ça n'a jamais été H, en fait, ah. dans les jeux.
H, c'est dans les animés, dans
wow,
les
films. Wow, écoute, merci.
Coup de théâtre.
Ouais, non, ouais, théâtre. OK.
On reparlera de H versus le...
Freddy okay. and Jason, ouais, il n'y a pas de problème. OK.
Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours à peu près dans une histoire d'un jeune qui décide de devenir un Pokémon trainer, donc entraîner des Pokémon, à peu près toujours 10 ans. Ah. Ses parents le laissent aller dans le monde, contre toute attente.
C'est-tu un métier noble dans le monde de Pokémon?
Oh, oui,
c'est bien correct d'être un trainer. C'est pas
puis de partir tout seul à 10 ans avec un animal de compagnie, c'est bien correct. Oui, oui.
Okay.
Puis t'as un professeur, toujours avec un nom d'arbre ou de plante.
Ah!
Qui te donne ton starter Pokémon. Oui.
Professeur Oak.
Oui.
Professeur Elm.
Professeur Birch.
Birch.
Ah!
Okay. Ah oui, il y a toujours des noms de plantes. Puis c'est ça, il te donne ton starter Pokémon, il te montre comment l'attraper, puis il faut comme, go, vas-y. Donc, il faut que tu te battes contre des gyms. Donc, c'est des endroits où tu as un maître Pokémon. Tu dois combattre pour avoir un petit badge et pouvoir continuer ta quête comme ça. Tu attrapes des Pokémon, tu les entraînes. Il y a quelque chose avec Pokémon aussi que tu peux personnaliser ton expérience. Donc, c'est toi qui choisis quel Pokémon que tu traînes avec toi parce que tu as juste droit d'en avoir 6.
OK. Puis c'est qui ton préféré?
Ouais, c'est ça, quel que tu aimes mieux utiliser, avec lequel tu aimes mieux attaquer. Tu peux choisir les attaques que tu lui apprends. Donc, tu as un maximum de 4 attaques. Tu peux faire une rotation.
Okay. Qui deviennent plus fortes le plus que tu les entraînes, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu peux vraiment... Oh, OK.
Donc, le Pokémon level up, donc il devient de plus en plus fort. Puis, là, en fait, tu bats les 8 gyms.
Ouais, 8 gyms, toujours 8. Ouais.
Ensuite, la Pokémon League, où est-ce que tu dois affronter une série de...
C'est un championnat.
Les ligues majeures.
Okay.
Ah ouais, puis après, tu as le Pokémon League Champion, que tu dois combattre. Et là, tu deviens le Pokémon League Champion, mais c'est assez bizarre parce que tu restes pas là, tu peux continuer ton voyage.
OK, ça, c'est l'histoire.
Et à travers l'histoire, il y a toujours un groupe de vilains qui a un but quelconque, qui veut... ça change de...
Puis t'as plein de métaphores éthiques, religieuses, environnementalistes.
OK, c'est ça.
Je vais dire ceux que je connais. Bon, mettons Ruby, Saphir, Emerald.
Ouais.
Métaphore quand même environnementaliste. Bon, il y a un groupe, il y a Team Magma et Team Aqua. On dirait un boys band des années 90, mais bon, c'est quand même ça.
Ils sont un peu comme dans un boys band.
Okay. Quand même.
De K-pop.
Team Aqua, en fait, leur but, c'est de faire monter les eaux pour nettoyer, en fait, la population qui est rendue...
c'est l'Ancien Testament, là.
Qui est rendue corrompue. Ils ont lu un peu trop de Rousseau, en gros, okay, c'est ce qui s'est passé. Team Magma, c'est à peu près la même chose, mais eux, ils veulent déclencher tous les volcans.
Ils trouvent qu'il y a trop d'eau.
Qu'il y a trop d'eau.
C'est donc bien fucké, ça, d'avoir comme deux
mais en fait, c'est selon la version. Si tu jouais Saphir, les vilains, c'était Team Aqua. Si tu jouais Ruby...
Ah ouais?
Si tu joues...
Si tu
joues la version Ruby, les vilains, c'était Team Magma.
Ouais.
Aller avec la couleur de ton jeu.
Donc, ton personnage veut amener la fin du monde.
Non.
Non, c'est les vilains. Contre
eux. Ah, c'est les vilains. OK, c'est bon.
J'ai toujours une organisation criminelle
obscure,
qu'il faut combattre pendant nos voyages d'enfants de 10 ans.
Puis eux autres, ils veulent la...
C'est... Tandis que dans la première génération, c'était la Team Rocket, qui est encore la même mauvaise équipe dans les
qui
animés.
Qui veulent voler les Pokémon de tout le monde pour devenir plus puissant.
Pour devenir plus puissant, sans doute pour faire des expériences aussi, parce qu'il y avait tout le truc de, bon, est-ce que c'est éthique faire modifier génétiquement des Pokémon, d'où le Pokémon Mewtwo, qui est encore un des Pokémon les plus populaires, mais bon, qui était comme une reproduction améliorée de Mew, qui est un Pokémon gélandaire.
Tentative de clone
qui a foiré un
Mew, c'est un peu comme le Jésus des Pokémon.
Ouais. Il est mort pour les péchés, il dit conception, c'est quoi les rapprochements? Il y a une barbe.
Comme sauver ou quelque chose comme
Il sauve, il est capable de sauver tout le monde, mais on le voit jamais vraiment, sauf si tu y crois, il va apparaître devant toi.
Puis c'est ça, c'était plutôt ça la question, parce que bon, c'est vraiment le fun de voir comment il est structuré, mais il y a une mythologie autour, c'est drôle, je voulais parler de Pokémon Black, puis je vais pouvoir le faire très rapidement ici. Il y a une version mythique
une créature.
Cassette, mais c'est pas une cassette. C'est comme...
Cartouche.
Cartouche, merci.
Ça va. Cartouche.
Qui est une version qu'on a... En fait, on dit que Pokémon Black, c'est une version glitch de Pokémon Red. Parce que quand on commence, tout est bien normal. C'est comme si c'était Pokémon Red, puis le récit, et c'est à peu près la même histoire. Sauf que dans tes Pokémon de départ, t'en as un qui s'appelle Ghost, qui a une attaque spéciale qui s'appelle...
C'est pas ce Pokémon Black, là.
Non. C'est vraiment comme
Je sais c'est quoi.
C'est un gros creepypasta, là. C'est qu'il y a eu un glitch dans le jeu, puis ça fait en sorte que le jeu est hors de contrôle, mais c'est une cartouche qui est... T'sais, on n'a pas vraiment de photos, mais on sait qu'elle se promène, nanana.
Ouais.
Parce que ce Pokémon-là, Ghost, a Curse. Puis Curse, quand tu le fais, l'écran devient noir, puis t'entends un... Puis quand ça revient, le Pokémon n'est plus là. Fait que c'est cette idée-là de que t'as un instant kill ability. Le problème, c'est qu'il y a un moment dans Red où, dans la version de Black, c'est ton personnage qui, à force d'avoir utilisé Curse... disparaît.
Ouais.
Et là, on est envoyé dans un avenir où ton handler serait vieux et il doit repentir l'usage de ce curse-là. Et finalement, ben, c'est lui qui est... C'est lui qui se fait absorber par ça.
C'est pas le black and white que je pensais, c'est ça?
C'est vraiment un objet...
C'est une version bootleg de Pokémon Red.
Ouais, qu'il y a quelqu'un qui a joué dans le code puis qui a ressorti ça puis qui l'a peut-être... Il y a aussi deux options. C'est soit que oui, il y a quelqu'un qui l'a fait ou oui, il y a quelqu'un qui a écrit cette histoire-là. Mais
il y a aussi l'industrie. Je pense que ça a rapport aussi avec ça un peu, mais qui a repris ça. Je pense que c'est dans Pokémon X and Y.
Ouais.
On est rendu au segment Illuminati, tout le monde.
Mais c'est ça.
Mais à mener dans le jeu, c'est dans le jeu, là, il y a quelque chose. Si tu le fais correctement, ça va apparaître. Si tu le fais pas correctement, ça le fera pas. Mais à un moment donné, t'arrives dans une maison hantée, quelqu'un qui te parle, puis si tu t'en vas à un autre endroit, je me rappelle, je l'ai fait, ça a marché, mais je me rappelle plus vraiment des détails.
Avec la fille, là. La fille weird.
Ouais, la fille weird.
Ok.
Ouais, puis là, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe avec des fantômes, puis après, ça disparaît. Mais c'est tout.
C'est un avant de... Si t'as réussi à passer toutes les étapes...
C'est vraiment des choses aléatoires qu'il faut que tu fasses pour que ça fonctionne.
Easter egg.
Il faut que tu parles à tel bonhomme, à tel endroit, que tu lui répondes cette réponse-là au lieu d'une autre, parce que c'est souvent ça, les dialogues. Tu joues entre deux réponses. Puis si tu lui réponds bien, puis tu retournes un petit peu plus tard, il va y avoir comme quelque chose de vraiment bizarre.
Mais pas nécessairement de récompense, juste une affaire.
C'est juste vraiment bizarre.
Mmh. OK. Puis ça, c'est le genre de truc, j'imagine, qui était recherché.
Ouais. C'était prévu, par exemple. C'est pas dans une version bootleg.
Non, c'est ça. Non, Black, c'est vraiment comme...
C'est moins creepypasta que la version bootleg de Pokémon Red. Ça, c'est weird.
C'est là où Black, je trouvais qu'il était intéressant parce que ça disait, ou du moins ça présupposait qu'il y a un moment où il va falloir que tu payes pour tes péchés.
Okay.
De qu'est-ce que t'as fait. C'est comme là, vous parlez de Team Rocket puis tout l'eugénisme. C'est les deux factions qui veulent amener la fin du monde.
Mais il y a aussi un discours très, très hypocrite de la part des Pokémon Trainers dans les jeux, mais aussi dans les films, dans les films.
Ouais.
C'est que on force des animaux à se battre pour avoir du fame.
Ouais, c'est du cockfighting, oui.
Mais c'est ça, dans le premier film... Je me souviens juste du titre, mais c'est Mewtwo Strike Back. Donc, Mewtwo, Pokémon cloné.
C'est un Pokémon de movie.
Hein? Le Pokémon de movie, Mewtwo Strike Back. Ouais, c'est ça. Puis, donc, c'est ça. Mewtwo a conscience de sa condition de Pokémon et décide de forcer les Pokémon à se sortir de l'esclavage. Pour ce faire, il amène plein de Pokémon trainers sur une île isolée. Il prend tous leurs Pokémon, il les clone pour faire des Pokémon purs, donc qui n'ont pas été subis...
qui n'ont pas été déjà esclaves à l'élevage.
Avec des Pokémon trainers. Puis là, il force les Pokémon clones à se battre contre leurs clones. Donc Pikachu contre Pikachu, Charizard contre Charizard. Là, tout le monde capote, les entraîneurs sont comme « Ah, mais tu peux pas forcer les Pokémon à se battre comme ça contre... » Mais c'est comme c'est ça que
c'est un
fais.
Peu ça que t'es en train de faire,
mais il
ouais.
y a aussi un sous-texte justement qu'on voit qui sort de cette hypocrisie là de la part des Pokémon trainers, c'est que on peut faire se battre des Pokémon ensemble à la seule condition qu'il y ait un objectif à ça. Donc ouais. Mewtwo avait pas d'objectif. Les Pokémon trainers, eux autres, ils font parce que les Pokémon sont leurs amis, donc ils leur donnent de l'amour et l'objectif c'est de les rendre plus forts. Ça, c'est le sous-texte qui, ouais. qui se développe, mais on voit qu'il y a quand même une certaine hypocrisie
là-dedans. C'est difficilement défendable, ouais, de comme... Ouais,
je... C'est tout le temps de même, ça se répète à l'infini. Mais il y a aussi tout un discours ouais. environnementaliste aussi, parce que c'est dans X and Y qu'il y a le celui qui veut libérer tous les Pokémon.
Tu veux libérer tous les Pokémon, puis en fait, justement, dans le même jeu, auparavant, il y avait eu une guerre importante qui avait eu, en fait, plein de soldats humains,
ouais.
mais mmh. qui utilisaient les Pokémon qui les accompagnaient un peu comme, genre, tu utilises un Apache Helicopter pour faire de quoi, ben bon, moi, j'utilisais un Charizard.
C'était un peu le même... Pokémon Industrial Complex.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. Puis c'était une grande guerre, puis à un moment donné, ça a arrêté parce que, genre, le chef d'un des deux camps, qui est comme un personnage vraiment énigmatique, un peu weird,
ouais.
qui, à la fin, ben, son Pokémon préféré, qui, bon, qui est le gars, il mesure 8 pieds, mais son Pokémon préféré, c'était comme une petite fleur. Puis à un moment donné, la fleur meurt. Fait que là, il sent mal.
C'est Chloé dans la vallée de Chuck, là.
C'est ça. Ouais. Puis là, il y a une malédiction carrément, puis il doit errer dans le monde jusqu'à temps qu'il puisse se repentir de son péché.
Mais la seule façon de se repentir, justement, c'est de rétablir la balance entre les humains et les Pokémon. Ouais. Et là, on revient à les problématiques initiales de Satoshi Tajiri sur l'environnement.
C'est ça.
Les Pokémon, c'est en quelque sorte une métaphore pour la nature et les humains, ce sont les humains. Donc, on a un peu... atteindre un équilibre que si on rétablit justement l'harmonie entre les deux. Le Japon, dans sa période, après sa période industrielle, a toujours eu des très gros problèmes de pollution et il y a toujours eu une volonté de faire de, justement de...
Ben, pas de la forestation.
Non, d'avoir une conscience écologique, je sais pas. Ouais.
Du développement durable.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Puis, justement, il y a un sous-texte environnemental toujours très fort dans Pokémon parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qui se clôt, c'est qu'il faut rétablir une balance entre les deux. Donc, il y a toujours, par exemple, il y a des films où il y a des legendary Pokémon qui sont plus rares, donc justement, qui sont aussi, qui incarnent certaines forces climatiques. Donc, on a... Palkia, Dialga, qui sont le temps et l'espace. Il y a des Pokémon dieux comme Arceus, c'est littéralement Dieu qui a créé les humains
Mew,
et
c'est
les Pokémon.
Jésus, Arceus, c'est Dieu.
Parce qu'en fait,
il peut être tous les types.
Ouais.
OK, ouais. C'est son attribut. Ouais. Je trouve ça extraordinaire.
Il y a des Pokémon qui incarnent, par exemple, l'esprit de la forêt, l'esprit de l'océan.
C'est du shintoïsme à ce point-ci.
Oui, carrément, parce qu'il y a beaucoup, en fait, de Pokémon qui sont basés sur des créatures dans la mythologie japonaise. Je pense à Magmar et Electabuzz, qui, c'est deux Pokémon qui sont un peu bizarres. Il y en a un qui est électrique, Electabuzz,
Magma.
Puis en fait, c'est deux ogres. Electabuzz, par exemple, c'est inspiré d'un ogre qui s'appelle un Oni, je crois.
Oui, comme Oni Baba.
Qui est en fait un ogre qui avait une peau de tigre puis qui faisait de l'éclair. Puis il ressemble à ça, en fait. Electabuzz, c'est comme un gros bonhomme un peu bedonnant avec des gros points, des dents de tigre, le pelage jaune rayé. Fait que c'est littéralement ça. Magmar, c'est un peu le même principe. C'est un genre de canard mythique de feu. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi basé sur une créature mythologique japonaise. Donc,
il y a aussi la tendance japonaise aussi à incarner à peu près toutes les cataclysmes naturels ou toutes justement la nature dans des esprits, à les personnifier, à les incarner justement là-dedans. Puis les Pokémon, ça sort pas de cette tradition-là. On a eu les Kaiju qui incarnent justement les cataclysmes, puis les Pocket Monsters qui sont les Pokémon, c'est exactement la même chose.
Ah.
C'est fou comme à niveau développement durable, Tu sais, il y a tout le discours qui va avec ça dans les jeux de Pokémon, mais quand on va à l'extérieur, tout ce qui est paratexte, le marketing, c'est ouais. super hypocrite, je veux dire. Juste la sortie des versions, mm-hmm. On a eu deux batchs de versions en un an, deux ans peut-être. XY, puis l'année d'après, on avait Alpha.
Ouais,
Alpha, ça fait, ben, c'est quand même, tu sais, d'autres jeux.
Ouais, c'est de la consommation.
Ouais.
Oh, oui, mais après. Mais ça, bon. C'était en haut t-shirt ou.
Ouais, c'est ça. Mais comme tu disais, là, à moitié de l'émission, tu y échappes pas, surtout quand
tu. Pas.
Mais c'est là où ça devient pour moi, parce que là, on est assez avancé pour que je puisse clarifier ce que je disais en début d'émission, je trouve ça vraiment cool, c'est que. Pas l'apparition, mais je pense que Pokémon est l'exemple type de ce moment-là de transmédia. C'est, il n'y avait pas grand-chose qui était similaire à ça avant. Puis maintenant, ça fait essentiellement à école, mais Pokémon, avec leur longueur d'avance, a pu développer une plus grande richesse.
Ça, mais ils le font aussi à leur manière. Il y a quelque chose, justement, ça part intrinsèquement du jeu qui favorise la socialisation. Puis il y a aussi tout le fait que avant Pokémon, le Japon exportait pas vraiment sa culture de façon assumée. Par exemple, avec Astro Boy, il y a à peu près la majorité de la population américaine qui avait aucune idée que c'était un dessin animé japonais. Mais avec Pokémon, pour la première fois, on dit ça c'est japonais.
Il était brandé.
Puis maintenant, ça, on fait des animés, on fait pas des cartoons.
Des dessins animés, vraiment.
Ben, oui, c'est ça, l'expression animé est devenue.
Animé en japonais. Donc, c'est pas des cartoons, c'est des animés. Puis il y a eu un gros boom, justement, l'exportation de la culture japonaise s'est faite en partie grâce à Pokémon, puis après, il y a toutes les autres séries qui ont suivi sous le même modèle, là, Digimon, Yu-Gi-Oh!
Ouais, parce que les déclinaisons, il y en a une à toutes les années. Là.
Mais on considère souvent que Pokémon n'est pas pionnière
pionnière
en tant que franchise
là-dedans. Souvent, de toute façon, les séries télé, dans tous les cas qu'on a nommés, c'est souvent pour justement faire la promotion d'un produit qui est en train d'être vendu. Digimon, en fait, à la base, c'était un clone de Tamagotchi. Mais plus évolué.
Puis c'était américain.
C'est
japonais, Digimon. Okay. Je pensais qu'ils avaient fait leur version américaine puis qu'elle avait foiré.
Puis okay. Yu-Gi-Oh! C'était un jeu de cartes à la Magic qui marche encore moins, mais qui fonctionne encore, je te dirais, beaucoup moins que le jeu de cartes de Pokémon, bien entendu. Là.
C'est ça, mais il y a aussi le fait que ces séries-là, dans leur penchant plus narratif, donc dans les séries télé ou dans les films, ça met un peu en abîme justement la situation des enfants qui jouent à ça. Donc Yu-Gi-Oh! C'est des enfants qui achètent des cartes puis qui jouent à des jeux de cartes. À un moment donné, ça devient hors de contrôle, il y a des mondes parallèles puis on peut tomber dans le chaos, dans le néant, je sais pas comment ça s'appelle. Mais Pokémon, c'est la même chose. Ce sont des jeunes de 10 ans qui peuvent collectionner des Pokémon comme les jeunes peuvent aller au magasin et s'acheter des cartes Pokémon.
C'est ça, l'identification.
Ils peuvent se battre ensemble, donc se battre avec le jeu de cartes et compagnie. Donc, c'est littéralement une mise en abîme de comment on consomme Pokémon et comment ensuite il fait partie de notre vie.
C'est ça, t'es en train de jouer, mais c'est ça, en jouant, t'es en train de reproduire à quoi t'es en train de jouer et ainsi de suite.
Oui, c'est ça.
Mais ça,
c'est... Ça abolit un peu aussi la frontière entre le monde virtuel, le monde imaginaire et le monde réel.
Oui, comme tu disais, tu ça, te promènes avec dans les poches comme lui se promène avec sa.
Pokémon, c'est plus de la consommation, ça devient un mode de vie, ça devient un lifestyle pour les enfants qui jouent à ça, et aussi en partie pour les adultes.
Oui, parce que la question est inévitable, est-ce que vous jouez encore?
Oui. Les versions Sun and Moon sont précommandées, c'est fait. Il n'y a pas de problème parce qu'on est deux, fait que,
c'est ça.
Je veux dire, on a une version chaque, puis on n'est même pas obligé de s'obstiner sa version.
Est-ce que vous avez déjà prédéterminé qui avait quoi? Est-ce qu'on va avoir...
Moi, j'ai Sun.
Moi, j'ai Sun,
c'est ça.
OK. Il n'y aura pas de...
On a l'impression aussi que Pokémon, c'est quand même assez intense comme mode de vie, mais c'est la façon casual de consommer Pokémon parce qu'il y a encore quelque chose de plus hardcore que ça. C'est toute la scène de compétition professionnelle, le metagaming, que là, on prend un Pokémon et on pense à ses habiletés, à toutes ses attaques pour en faire une espèce de machine de guerre.
Parce qu'à partir depuis quelques générations, en fait,
Mais là, 20 ans, c'est comme
moi,
deux,
c'est ça. Mais depuis quelques générations, en fait, n'importe quel jeu, comme Yul le disait dans Casual Revolution, n'importe quel jeu a le potentiel d'être casual. En fait, n'importe quel jeu a le potentiel d'être autant l'un et l'autre.
Ouais.
Ce qui est casual, c'est souvent relatif à, bon, je peux arrêter de jouer quand je veux. Il y a beaucoup de juiciness, ça, c'est mon préféré, de la jutosité, que c'est bon, ça flash dans mes yeux, il y a des effets, c'est cool, c'est beau, c'est tout.
La jutosité.
Moi,
j'adore
ça. C'est Carl Terrien d'ailleurs.
Allô.
Mais bon, tout ce qui est bon, j'accorde une importance au récit, tu sais, versus les hardcore, les hardcore gamers.
Bon,
je me sens guillemets parce que c'est pas une dualité, là, c'est vraiment un spectre. Tu peux être plus enclin à faire ça ou plus enclin à faire les deux, mais bon, peu importe.
Ouais.
Chaque jeu a le potentiel d'être ça. Puis au niveau des jeux vidéo, encore une fois, casual, j'attrape des Pokémon parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont cute.
Ouais.
Moi, personnellement, je suis en train de faire une game que j'attrape juste des Pokémon qui sont mauvais. C'est mon défi personnel. Je fais de la recherche pour mémoire, en fait, officiellement. Là, c'est vraiment ça que je fais. Puis c'est genre, je me fais une team de Magikarp, qui est comme le pire Pokémon de la vie, genre un poisson rouge qui dandine sur le côté.
OK.
C'est vraiment juste
parce qu'il manque d'oxygène.
Parce qu'il manque d'oxygène. Ouais, okay. Tout ce qu'il peut faire, c'est splash. Puis splash, ça fait rien à part splasher. Ça attaque pas.
Tu peux avancer dans le jeu avec ça?
Ouais.
C'est okay. T'as d'autres attaques un petit peu plus fortes, mais il peut jamais vraiment devenir puissant.
Ça fait juste que ton jeu dure 4 fois plus longtemps.
C'est ça.
C'est ça.
Puis toi, t'es en train de... T'as établi des contraintes.
Ouais, des contraintes personnelles.
Ouais, pour être capable de prendre ça. Puis il y a des gens, à l'inverse, qu'eux autres, ils vont comme mélanger un Squirtle avec un Charizard,
c'est ça,
puis
ça
va comme
péter
partout.
J'ai dit n'importe
quoi.
Récemment, non, mais c'est pas super, là. Mais tu sais, récemment, en fait, ils ont rajouté des passive abilities, que c'est tu joues, puis en fait, il y a des habiletés qui sont propres à certains personnages qui vont se modifier, ben en fait, qui vont modifier le combat, mais que tu choisis pas pendant un combat. Fait que ça va considérablement changer. T'es toujours là, Jim?
Oui, oui, non, je suis là, non, j'entends très bien parce que ça, c'est des ability modifiers.
Ouais, passif, puis la nature aussi, ça, c'est super important. Ils ont rajouté ça, il y a 2 générations, je crois. Depuis XY ou peut-être avant, je suis pas certain, mais la nature, en fait, ça faisait que si t'étais agressif, par exemple, peut-être que je parle au travers de mon chapeau, ouais. Je suis pas au courant, mais si t'étais agressif, t'avais 10% plus d'attaque, mais 10% moins de vitesse, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que si jamais tes parents, t'avais 2 parents, tu voulais faire, bon, une...
Oh oui.
Copulation inter-espèce. Tu prenais un parent agressif puis un parent, je sais pas, esselé, puis ça faisait que peut-être ton enfant avait plus de chances d'être, je sais pas, énervé. Bon, par exemple, ça aurait pu être quelque chose comme ça.
Équilibré.
Donc, ouais, c'est quand même particulier. Puis il y a vraiment des joueurs qui, en fait, qui vont passer des longues heures à créer
pour
le bon Pokémon
vraiment, ouais.
À force d'accoupler des Pokémon. Il y en a qui passent des heures à faire ça, vraiment. Fait que c'est quand même... C'est quand même impressionnant.
C'est ce qu'on vous souhaite, en fait, chers auditeurs. C'est ce qu'on vous souhaite à vous, Alexandre Megan. Merci énormément pour l'édition.
Merci à toi.
Mais je pense qu'en une heure, vous avez
ouais.
Réussi à encourager pas mal n'importe qui à aller pratiquer ça. On va aller écouter Hype Williams avec Rescue Dawn. C'est une suggestion de Paul, le directeur de la programmation, qui m'a dit que ça irait avec l'émission parce qu'il nomme les 151 Pokémon durant la chanson. Bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.
mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.